L'homme qui rampe, par Arthur Conan Doyle. Un samedi, au début de septembre 1902, je reçus de Holmes ce laconique message qui était bien dans sa manière. « Venez immédiatement si cela ne vous dérange pas. Si cela vous dérange, venez quand même. » Nos relations avaient pris en ce temps-là un caractère particulier. Holmes était l'homme des habitudes strictes, réduites à un petit nombre, et j'en faisais partie. En période de travail et d'activité, s'il avait besoin d'un camarade dont il était éprouvé le moral, mon rôle était assez net, mais je lui servais en outre à divers usages. J'étais, pour son esprit, une pierre à aiguiser. Je le stimulais. Il aimait à penser tout haut en ma présence. Bref, il s'était accoutumé à m'avoir pour enregistreur et pour interlocuteur. En arrivant à Baker Street, je le trouvai ramassé dans son fauteuil, le menton sur les genoux, la pipe aux dents, le front creusé par la méditation. Visiblement, il cherchait à résoudre un problème difficile. M'ayant indiqué d'un geste mon siège familier, il parut, l'espace d'une demi-heure, ne plus soupçonner que je fusse là. Enfin, un sursaut le tira de sa rêverie, et c'est avec un sourire indéfinissable, comme était toujours son sourire, qu'il m'accueillit dans mon ancien domicile. « Veuillez m'excuser si je vous semble distrait, mon cher Watson, » me dit-il. Des faits curieux, dont je suis saisi depuis hier, m'entraînaient à des spéculations d'un ordre général. Je songe très sérieusement à écrire un travail sur l'utilité des chiens en matière d'enquête judiciaire. « C'est là un terrain bien exploré, » lui objectai-je. « Par exemple, l'emploi des limiers. » « Vous n'y êtes pas, Watson. » Il est un autre aspect de la question, plus subtil. J'ai, relativement aux chiens, des idées spéciales. Un chien reflète toujours la vie d'une famille. Qui donc a vu dans une famille triste un chien folâtre et un chien triste dans une famille gaie? À maître grognon, chien hargneux. À maître dangereux, chien redoutable. Les dispositions de l'un peuvent trahir celles de l'autre. Je hochai la tête. Vraiment? Vous allez un peu loin, Holmes. Il avait rembourré sa pipe, repris son siège et, sans s'émouvoir de mon commentaire, « L'application du principe que je viens d'énoncer, » continua-t-il, « intéresse le problème qui m'occupe. Il constitue un écheveau très embrouillé dont je cherche le bon bout. Et le bon bout, c'est peut-être la réponse à cette question « Pourquoi le chien-loup du professeur Presbury, Roy, le fidèle Roy, cherche-t-il à mordre son maître ?» Je me renversai dans mon fauteuil. J'étais un peu désappointé, je l'avoue. Était-ce pour répondre à une question si futile qu'Holmes m'avait arraché à mes obligations professionnelles? Cependant, mon ami me regardait. « Toujours le même, mon vieux Watson, » me dit-il. « Vous n'avez pas encore appris que les moindres faits peuvent avoir la signification la plus grave. Voici un homme, dont le nom vous est bien connu, le professeur Presbury, le célèbre physiologiste de Camford. Ce savant... Ce vieillard assis a pour ami dévoué un chien loué et par deux fois la bête l'attaque. N'est-ce pas étrange que vous ensemble, la bête est malade? C'est à savoir. Notez qu'en dehors du professeur, le chien n'attaque personne. Qu'au surplus, il ne s'en prend à son maître que dans des circonstances spéciales. Curieux, Watson, très curieux. On a sonné, je crois. Si c'est le jeune Monsieur Bennett, je ne l'attendais pas si tôt. J'espérais causer à loisir avec vous. Un pas rapide sonnait dans l'escalier. Un coup vif retentit à la porte. Le nouveau client se présenta. C'était un grand et beau jeune homme d'une trentaine d'années et d'une mise élégante. Pourtant, quelque chose dans ses allures manifestait la timidité du savant, plutôt que l'aisance de l'homme du monde. Ayant serré la main de Holmes, il me regarda avec surprise. « L'affaire est très délicate, Monsieur Holmes, » dit-il. « Considérez la nature de mes relations à la fois privé et public, avec le professeur Presbury. Je ne me sens pas autorisé à parler devant un tiers. N'ayez aucune crainte, Monsieur Bennett. Le docteur Watson est la discrétion même, et il y a toute apparence que dans le cas présent j'ai besoin d'un auxiliaire. Comme il vous plaira, Monsieur Holmes, vous comprendrez sans doute que je me sois cru tenu à faire mes réserves. Vous le comprendrez à votre tour, Watson, me dit Holmes, quand vous saurez que ce gentleman, Monsieur Trevor Bennett, est l'assistant du grand physiologiste, habite sous son toit et doit épouser sa fille unique. Nous conviendrons que le professeur est en droit d'exiger de lui une loyauté parfaite, un dévouement absolu. Mais peut-être, M. Bennett, ne saurait-il donner de meilleures preuves qu'en s'attachant à élucider ce mystère. « Je l'espère, Monsieur Holmes, et je ne cherche pas autre chose. Le docteur Watson connaît-il la situation ? Je n'ai pas eu le temps de la lui exposer. En ce cas, il serait sans doute bon qu'avant d'aborder les faits nouveaux, je reprisse l'affaire à son origine. « Permettez que je m'en charge, » dit Holmes. « Ainsi, je montrerai que j'ai les événements bien classés dans la tête. » Le professeur, Watson, est un homme de réputation européenne. Il est veuf, il a une fille, Edith. Caractère positif, énergique, je dirais volontiers combatif. Il avait consacré à la science une vie où jamais n'avait trouvé place le moindre scandale, lorsque le cours régulier en fut brusquement interrompu il y a quelques mois. À 60 ans, il brigua la main d'une jeune fille dont le père, le professeur Morphy, est titulaire de la chaire d'anatomie comparée à la même université. Il lui fit une cour non point raisonnable, telle qu'on pouvait l'attendre d'un homme de son âge, mais passionné, mais frénétique, comme celle d'un jeune homme. Pas d'amoureux plus éperdu. Miss Alice Morphy est une personne accomplie au moral et au physique. L'engouement du professeur n'avait que de trop bonnes excuses. Cependant, chez lui, on ne voyait pas cela d'un œil tout à fait favorable. « Nous le jugeons excessif, » dit notre visiteur. « Précisément, excessif et un tant soit peu anormal. Le professeur Presbury a de la fortune, le père de la jeune fille ne lui fit pas d'opposition. Mais d'autre part, la jeune fille avait ses vues. Plusieurs prétendants s'offraient à elle, moins bien qualifiés par la situation, mieux assortis par l'âge. Nonobstant les excentricités du professeur, Miss Morphy semblait avoir pour lui de la sympathie, seule la différence d'âge créant entre eux un obstacle. Un petit mystère vint sur ces entrefaites assombrir l'existence du professeur. Il partit un jour en voyage sans indiquer où il allait. À son retour, 2 semaines plus tard, il avait l'air très fatigué. Il ne se départit point de sa retenue, bien qu'il fût, à l'ordinaire, le plus franc des hommes. Mais, par hasard, notre client, M. Bennett, reçut d'un collègue de Prague une lettre lui disant qu'il avait été heureux de voir le professeur dans cette ville, sans toutefois pouvoir causer avec lui. C'est ainsi que, dans la famille, on sut où était allé le professeur. Dès lors, et voilà où l'affaire se corse, notre homme changea de façon bizarre. Il devint ombrageux, renfermé. Son entourage avait peine à le reconnaître. Il semblait touché dans certaines de ses facultés les plus hautes. Non pas dans son intelligence, ses cours étaient aussi brillants que jamais. Mais il y avait sans cesse en lui quelque chose de nouveau, d'imprévu et de sinistre. Sa fille, qu'il aimait tendrement, s'ingéniait à vouloir renouer entre eux les liens d'une intimité encore récente. Elle s'efforçait à percer le masque qu'on eût dit qu'il s'était mis sur le visage et probablement « Vous unissiez vos efforts à ceux de Miss Presbury, monsieur. Tout, hélas, fut inutile. À présent, monsieur Bennett, racontez vous-même l'incident des lettres. » « Il faut que vous sachiez, docteur Watson, » dit alors M. Bennett, « que le professeur n'avait pas de secret pour moi. J'eusse été son fils ou son jeune frère qu'il ne m'eût pas accordé plus de confiance. Étant son secrétaire, je voyais tout le courrier qui lui arrivait, j'ouvrais et triais les lettres. Cela ne dura pas après son retour. Il me dit qu'il attendait de Londres certaines lettres marquées d'une croix sous le timbre et me pria de les lui réserver, car il désirait être seul à les lire. Effectivement, plusieurs de ces lettres me passèrent dans les mains. Elles portaient le cachet du Central-Est de Londres. L'adresse en était d'une écriture maladroite. Si le professeur y répondit, je l'ignore. Il ne me remit aucune de ses réponses et je n'en vis aucune dans le panier où l'on rassemblait la correspondance de la maison. « Parlez-nous de la boîte, » dit Holmes. « J'y arrive. » Le professeur avait rapporté de son voyage une petite boîte. C'était un de ces objets de bois sculptés dont la forme baroque suffit à dénoncer l'Allemagne. Il y avait là un indice, et d'ailleurs le seul, que nous eussions d'un passage sur le continent. Le professeur mit la boîte dans l'armoire où il range ses instruments. Un jour que je la soulevais pour chercher une canule, il entra dans une colère aussi violente que déconcertante, et il me reprocha ma curiosité en termes dont la brutalité m'offensa. Jamais il ne m'avait parlé de la sorte. En vain lui représentai-je que si j'avais touché à la boîte, c'était simple hasard. J'observais toute la soirée que l'incident le travaillait et qu'il me faisait grise mine. Bennett tira un carnet de sa poche. Ceci se passait le 2 juillet. Vous êtes la perle des témoins, dit Holmes. Quelques-unes des dates que vous avez notées pourront m'être utiles. J'ai, entre bien d'autres choses, appris de mon maître d'école la méthode. Dès l'instant où je remarquais les anomalies de sa conduite, je sentis qu'il était de mon devoir d'étudier son cas. C'est ainsi que j'ai noté cette date du 2 juillet, qui est également celle du jour où Roy, son chien, se jeta sur lui au moment qu'il passait de son cabinet dans le hall. Une scène du même genre eut lieu le 11, et j'en ai noté une troisième à la date du 21. Après cela, nous dûmes reléguer Roy à l'écurie. C'est un animal gentil, affectueux. Mais je crois que je vous fatigue. Le ton qui accompagna cette réflexion était celui du reproche. Évidemment, Holmes n'écoutait plus Bennett. Son visage s'était figé, ses yeux vagués au plafond. Il lui fallut un effort pour se reprendre. « Étrange, bien étrange, » murmura-t-il. « J'ignorais tous ces détails, monsieur Bennett. J'ai idée qu'enfin nous sommes sur un bon terrain. Mais vous avez parlé de faits nouveaux. » Il sembla qu'un souvenir fâcheux obscurcissait la transparente figure de notre visiteur. « L'avant-dernière nuit, » reprit-il, « j'étais couché, sans dormir, quand vers 2 heures, j'entendis venir du couloir un bruit sourd. J'ouvris ma porte et regardai au dehors. Il faut que vous sachiez qu'à l'extrémité du couloir se trouve la chambre du professeur. La date ?» demanda Holmes. Cette interruption était la dernière que Bennett dut prévoir. Elle l'interloqua. « J'ai déjà précisé, monsieur, que ceci se passait l'avant-dernière nuit, autrement dit le 4 septembre. » Holmes sourit et s'inclina. « Veuillez continuer, » fit-il. Donc, le professeur a sa chambre à l'extrémité du couloir. Pour gagner l'escalier, il était forcé de passer devant ma porte. Je me crois les nerfs aussi bien trempés que ceux de personne. Néanmoins, je fus bouleversé de ce que je vis. Le couloir était sombre, sauf à un endroit vers le milieu où une fenêtre découpait une tache lumineuse. J'y voyais quelque chose d'indistinct se traîner au ras du parquet. Cela émergea tout à coup dans la lumière. C'était le professeur. Il rampait, monsieur Holmes, il rampait. Non pas seulement sur les genoux, mais plutôt sur les mains, la tête basse. Cependant, il semblait se mouvoir à l'aise. Je demeurai cloué sur place au point que ce fut seulement quand le professeur arriva devant ma porte que je pus m'approcher et lui demander s'il avait besoin de mon aide. Il se redressa d'une pièce, me lança une injure grossière et, passant outre, se précipita dans l'escalier. J'attendis 1 heure sans le voir revenir. Ce n'est qu'à la pointe du jour qu'il regagna sa chambre. « Eh bien, qu'en pensez-vous, Watson ?» me demanda Holmes de l'air du pathologiste présentant un phénomène. « Lumbago, peut-être. » J'ai vu dans une crise de ce mal un homme se traîner de la même manière. Il n'y a point de spectacle plus pénible. Bon, Watson, qui avait soin que nos pieds tiennent toujours au sol. L'hypothèse d'un lumbago me paraît peu admissible, notre homme s'étant instantanément redressé. Le professeur n'a jamais eu meilleure santé, reprit Bennett. Positivement, il y a des années que je ne l'ai connu aussi bien portant. N'empêche que les faits sont les faits, monsieur Holmes. Ce n'est pas ici un cas où l'on puisse consulter la police. Pourtant, nous ne savons plus que penser ni que faire, et nous pressentons un désastre. Edith, Miss Presbury, est comme moi d'avis que nous n'avons pas le droit de nous cantonner davantage dans l'expectative. Le cas est certainement d'un intérêt très spécial, très vif, n'est-ce pas, Watson? À mon avis de médecin, il intéresse surtout l'aliéniste. L'amour aura troublé l'équilibre du vieil homme. C'est pour échapper à sa prison qu'il aura fait un voyage à l'étranger. Quant aux lettres, quant à la boîte, peut-être ont-elles rapport à quelque affaire privée. Par exemple, un placement d'argent dont il aura mis les titres dans la boîte. Et sans doute, ce placement n'aura pas eu l'approbation du chien. Non, Watson, non, il y a autre chose. Tout ce que je puis encore dire... Ce que pouvait dire Sherlock Holmes, nous ne le sûmes jamais. La porte venait de s'ouvrir. Une jeune fille entra dans la chambre. Bennett, en la voyant, poussa un cri et, se levant d'un bond, courut, les mains tendues au-devant des mains qu'elle lui tendait. « Ma chère Edith, rien d'ennuyeux, j'espère. J'avais besoin de vous rejoindre. Je suis si impressionné, Jack. Je tremble de rester seul dans cette maison. Voici, Monsieur Holmes, la jeune personne dont je vous ai parlé, ma fiancée. Nous commencions à nous en douter, pas vrai, Watson ? » reprit Holmes en souriant. Gageons, Miss Presbury, qu'il s'est encore passé quelque chose et que vous venez nous en faire part. » Miss Presbury, type idéal et charmant de la jeune fille anglaise, rendit à Holmes son sourire, puis s'étant assise près de Bennett. Quand je me fus aperçu que Miss Bennett avait quitté son hôtel, je pensais que je le trouverais ici, sachant qu'il devrait revenir vous consulter. « Ah, Monsieur Holmes, ne ferez-vous rien pour mon pauvre père ?»« L'affaire est obscure, mais je ne désespère pas de l'éclaircir. »« Peut-être m'y aiderez-vous, Miss Presbury ?»«
Un nouvel incident a marqué la dernière nuit, Monsieur Holmes. » Toute la journée, mon père s'était montré bizarre. Je suis sûr qu'il y a des moments où il perd toute notion de ses actes. Il vit comme dans un rêve. Ce fut le cas, hier. Mon père n'était plus mon père. Son enveloppe extérieure était là. Son vrai moi était ailleurs. Racontez-moi ce qui s'est passé. Je fus éveillé dans la nuit par les aboiements furieux du chien. Pauvre Roy. Le voilà maintenant à la chaîne dans l'écurie. Je ne dors qu'enfermé à clé dans ma chambre. Ainsi que Jack, M. Bennett, vous le dira, nous nous sentons tous sous la menace d'un danger. Ma chambre est au deuxième étage. Le store de ma fenêtre était levé. Au dehors brillait le clair de lune. Les yeux fixés sur le rectangle de lumière, j'écoutais le vacarme que faisait le chien quand soudain j'aperçus devant moi le visage de mon père. M. Holmes, je manquais mourir de saisissement et d'horreur. Le visage se pressait contre la vitre. Il me sembla que mon père avançait la main pour remonter le châssis. S'il l'eût remonté, je crois que je serais devenue folle. N'allez pas imaginer que je rêvais. Vous auriez tort, Monsieur Holmes.
Certainement, je restai une vingtaine de secondes paralysé, regardant mon père. Puis il disparut, et je n'eus pas la force, non, littéralement, pas la force, de sauter de mon lit pour aller jusqu'à la fenêtre. Je grelottais jusqu'au matin. Tout le temps du déjeuner, mon père fut d'une humeur aigre, maussade. Mais il ne fit aucune allusion à l'aventure de la nuit, moi non plus d'ailleurs. Mais j'alléguai un prétexte pour venir à Londres, et me voici. Holmes, en écoutant ce récit, n'avait point dissimulé son étonnement.
« Ma chère demoiselle, vous dites que votre chambre est au deuxième étage. Y a-t-il une grande échelle dans le jardin ? » ?»«
Non, monsieur Holmes, et c'est le plus singulier de l'histoire. » « Il n'existe aucun moyen d'atteindre la fenêtre. Cependant, j'y ai vu mon père. »«
Et le 4 septembre ?» fit Holmes.
« Ce qui complique les choses. » Comme à son tour, la jeune fille se montrait étonnée.
« C'est la seconde fois, monsieur Holmes, » dit Bennett, « que vous relevez cette date. Aurait-elle une importance ?»«
Peut-être bien, peut-être bien. Mais certains éléments d'information me manquent encore. »
Songeriez-vous au rapport qu'il peut y avoir entre des crises de folie et des phases de la lune ?
Non. Ma pensée suit une direction très différente.
Consentiriez-vous à me laisser votre carnet ?
J'examinerai les dates inscrites.
Et maintenant,
autant que j'en juge, notre ligne de conduite nous est toute tracée, Watson. Mademoiselle, en la perspicacité de qui j'ai pleine confiance, nous dit que son père se souvient peu ou pas du tout de ce qui lui arrive à certaines dates. Nous allons rendre visite au professeur. Nous feindrons d'avoir de lui un rendez-vous. Il s'imaginera l'avoir oublié. En le voyant de près, nous aurons éclairé notre marche.
Excellente idée, dit Bennett, mais je vous avertis que le professeur est irascible et parfois capable de violence.
Holmes sourit.
Il y a des raisons impérieuses.
Et si mes conjectures sont exactes,
pour que notre visite ait lieu aussitôt que possible. Nous irons à Camford dès demain. J'ai souvenir qu'il existe en ville un certain hôtel des Checkers, où l'on trouve d'honnêtes porteaux et du linge irréprochable. Le destin, Watson, eût pu nous assigner pour les jours prochains des résidences moins bien choisies.
Nous nous mîmes en route le lundi matin pour la fameuse ville universitaire. Il n'en coûtait aucun sacrifice à Holmes, qui n'avait point d'attache. Il m'en coûta toutes sortes de combinaisons et de démarches pressées, à moi dont la clientèle ne laissait pas, à cette époque, d'être considérable. Holmes ne sonna mot de l'affaire qu'après que nous eûmes déposé nos bagages dans la vieille hôtellerie dont il avait parlé. Mais avis Watson que nous devrions tomber chez le professeur juste avant son déjeuner. Il fait son cours à 11 heures, après quoi il a probablement un instant de loisir. Mais comment justifierons-nous notre visite ? Holmes consulta le carnet que lui avait confié Bennett.
Il a traversé une période d'excitation le 26 août. Nous présumerons qu'il ne garde qu'un souvenir vague de ce qu'il a fait de pareille date. Nous lui affirmerons qu'il nous a donné rendez-vous. Il ne se risquera pas à nous démentir, mais aurait voulu l'effronterie de soutenir le rôle. Essayons toujours. Brave Watson. Essayons toujours. C'est la devise même qui convient à notre association. J'espère que nous trouverons un aimable indigène pour nous conduire. Nous en trouvâmes un qui, juché à l'arrière d'un cab, nous mena grand train le long d'une rangée de vieux collèges, tourna dans une allée plantée d'arbres et finalement s'arrêta devant une charmante maison ceinte de pelouses et drapée de glycines pourpres. On reconnaissait à mille signes que le professeur Presbury vivait non seulement dans l'aisance, mais dans le luxe. Au moment où nous arrivions, une tête grisonnante apparut à une fenêtre, deux yeux surmontés de sourcils touffus se braquèrent sur nous derrière des lunettes de corne. L'instant d'après, nous étions dans le cabinet du savant, dont les mystérieuses extravagances motivaient notre venue. Rien, ni dans son aspect, ni dans ses façons, ne dénotait l'excentricité. C'était un homme d'imposante carrure, aux traits accusés, grand, vêtu d'une redingote sévère, et digne autant que l'exigeait son état. Ce qu'il y avait de plus remarquable dans son visage, c'étaient les yeux, prodigieusement vifs et scrutateurs, l'intelligence y confinée à la ruse. Ayant regardé nos cartes, « Asseyez-vous, messieurs, nous dit-il. Que désirez-vous de moi ?» Holmes affecta de sourire. « J'allais vous faire la même question, professeur. À moi. » Je m'étais laissé dire que le professeur Presbury réclamait mes services, en vérité. Dans la profondeur grise des yeux du savant, je pensais voir s'allumer un éclair de malice. « Vous êtes laissé dire cela. Et puis-je vous demander par qui ?»« Désolé, mais j'ai promis le secret. Si j'ai fait un pas de clair, il n'y a point de mal. Toutes mes excuses. Halte-là. J'entends pousser plus loin cette affaire, elle m'intéresse. Avez-vous le moindre papier, lettre ou télégramme qui me confirme vos paroles ? Non. Vous ne prétendez pas que je vous ai appelé. Je vous saurai gré de ne pas m'interroger, dit Holmes. Je m'en doute, repartit le professeur d'un ton âpre. En tout cas, pour être fixé, je n'ai pas besoin de votre aide. Il traversa la pièce, sonna. Ce fut notre ami Bennett qui répondit à son appel. Entrez, monsieur Bennett. Ces deux messieurs m'arrivent de Londres avec l'impression d'être mandés par moi. Vous avez la charge de ma correspondance. Avez-vous noté quelque chose à l'adresse de M. Holmes ? Rien, monsieur, répondit Bennett, devenu rouge. Voilà qui est concluant, dit le professeur en toisant Holmes avec colère. Puis, se penchant les deux mains sur la table, « Après cela, vous ne contesterez pas, ajouta-t-il, que j'ai le droit de vous interroger. » Holmes haussa les épaules. « Je vous le répète, je ne puis que m'excuser de vous avoir dérangé inutilement. » « Non, monsieur Holmes, non !» s'écria le vieillard du haut de la tête et d'un air d'extraordinaire malveillance. Il nous avait, tout en parlant, barré l'accès de la porte et il brandissait furieusement vers nous les deux poings. « N'attendez pas que je vous laisse sortir ainsi !» Les traits convulsés, ivres de rage, grimaçant, il brouillait les mots, bafouillait. Je suis convaincu que sans l'intervention de monsieur Bennett, nous aurions dû nous ouvrir un chemin de vive force. « Mon cher professeur, dit le jeune homme, songez à votre situation, au scandale qui rejaillirait sur l'université. Monsieur Holmes est un homme connu. On ne le traite pas avec discourtoisie. » Notre hôte, s'il est permis de lui donner ce nom, finit par nous livrer passage. Et nous respirâmes en nous retrouvant dehors, sous les paisibles ombrages de l'avenue. Holmes paraissait fort amusé. « Notre savant ami a les nerfs assez mal en point, me dit-il. Peut-être nous sommes-nous introduits bien cavalièrement chez lui. » Du moins, j'ai réussi à l'approcher. Mais par Dieu, Watson, ne serait-ce pas lui dont j'entends les pas ? Il nous poursuit, le traître. Le fait est qu'on courait derrière nous et nous fûmes grandement soulagés lorsqu'au tournant de l'avenue, nous vîmes déboucher non pas le terrible professeur, mais son assistant autour d'haleine. Je suis confus, monsieur Holmes. Je voulais vous faire mes excuses. Inutile, cher monsieur. Le métier a ses petits inconvénients. J'en ai l'habitude. Je n'avais jamais vu le professeur dans un état aussi dangereux. Il devient plus inquiétant chaque jour. Vous comprenez maintenant ce qui causait les alarmes de sa fille et les miennes. Remarquez qu'en dépit de tout, son cerveau reste parfaitement lucide. « Trop lucide, » dit Holmes. « C'est en quoi il déjoue mes calculs. Sa mémoire est d'une sûreté qui m'étonne. Mais à propos, voudriez-vous nous indiquer la fenêtre de la chambre de Miss Presbury ? » À travers les massifs, Bennett nous guidait jusqu'à un endroit d'où l'on apercevait un côté de la maison. « C'est là, au deuxième étage, à gauche. » « Mais sapristi, elle me fait l'effet d'être à peu près inaccessible, cette fenêtre. Il est vrai qu'à la rigueur, en s'accrochant aux plantes grimpantes, au conduit des eaux, je ne me flatterai pas d'y grimper, » dit Bennett. « Assurément, pour un homme normal, ce serait un exploit scabreux. Il y a, monsieur Holmes, autre chose que je voulais vous dire. Je me suis procuré l'adresse de l'homme à qui le professeur écrit. J'ai lieu de penser qu'il lui a encore écrit ce matin. Son buvard m'a renseigné. Vous trouverez que pour un secrétaire à qui l'on se fie, juste de procéder peu recommandable, mais que faire ? »
Holmes jeta un coup d'œil sur la feuille de buvard que lui présentait Bennett, puis il la mit dans sa poche.
« Dorak, drôle de nom, » fit-il. « Slovaque, j'imagine. Nous rentrons à Londres cet après-midi, monsieur Bennett. Inutile que nous restions, nous ne pouvons faire arrêter le professeur puisqu'il n'a pas commis de crime, ni demander qu'il soit mis en surveillance puisque nous n'avons pas de preuves qu'il soit fou. Toute action contre lui serait actuellement prématurée. Alors, que nous conseillez-vous ?
Un peu de patience, monsieur Bennett. La situation ne va pas tarder à se développer. Sauf erreur, il peut survenir, mardi prochain, une nouvelle crise. Comptez sur nous, prêtez à Camford de ce jour-là. En attendant, j'accorde que la maison n'a rien de plaisant, et si Miss Presbury trouvait le moyen de prolonger son séjour à Londres,
c'est très facile. Qu'elle y reste donc jusqu'à ce que nous ayons la certitude que tout danger est écarté. D'ici là, laissez le professeur agir à sa guise. Ne le contrariez pas. Rien à redouter tant qu'il est de bonne humeur. Soudain, Bennett frémit de tous ses membres. « Lui » murmura-t-il. Nous regardâmes entre les branches. À l'entrée du hall, dans le cadre de la porte, se découpait la haute silhouette du professeur. Avançant la tête, balançant les mains à bout de bras, il promenait les yeux d'un côté à l'autre. Le secrétaire prit silencieusement congé de nous, s'étant glissé entre les arbres. Il rejoignit le professeur, et tous les deux rentrèrent, engagés dans une conversation qui nous parut être immédiatement des plus vives. « Le vieux gentleman a dû faire ses réflexions, » dit Holmes, comme nous retournions à l'hôtel. J'ai pu me rendre compte qu'il avait un cerveau particulièrement sagace et logique. Explosif aussi, sans doute, mais à son point de vue, n'a-t-il pas de quoi jeter feu et flamme s'il découvre qu'on a lâché contre lui des détectives et s'il y voit un complot de ses familiers ? J'ai peur que l'ami Bennett ne passe des heures difficiles. Chemin faisant, Holmes s'arrêta dans un bureau de poste d'où il expédia un télégramme. La réponse lui parvint dans la soirée. Il me la communiqua aussitôt. Elle était ainsi conçue. Sur les Commercial Road, vue d'Orak, Omeksky, âgé, d'origine tchèque. Tiens, entrepôt, articles toutes sortes. Mercier. Mercier est venu après vous, me dit Holmes. J'utilise couramment ses services. Il m'importait d'être renseigné sur l'homme avec qui le professeur entretient une correspondance si secrète. Sa nationalité n'est pas sans relation avec le voyage à Prague. S'il y a dans l'affaire quelque chose qui soit en relation avec quelque chose, grand merci, répliquai-je. Mais jusqu'ici, nous sommes, il me semble, en présence d'incidents inexplicables, sans rapport quelconque les uns avec les autres. Par exemple, quel lien peut-il y avoir entre les fureurs d'un chien-loup, un voyage en bohème et le fait qu'un homme se promène à quatre pattes la nuit dans un couloir ? Quant à vos dates, c'est ce que je vois de plus mystérieux dans tout ce mystère. Holmes sourit en se frottant les mains. Nous tenions séance, si je puis dire, dans le vieux salon de l'antique hôtel, et nous avions entre nous sur la table une bouteille de ce fameux porto dont avait parlé Holmes. « Eh bien, » fit mon ami, les doigts joints, comme s'il eût professé devant toute une classe, « prenons d'abord les dates. » Le journal de notre bon jeune homme montre qu'après la première crise, survenue le 2 juillet, les autres, à l'exception d'une, suivirent toutes à un intervalle fixe de 9 jours. C'est ainsi que la dernière, celle de mardi, tombe à la date du 3 septembre et fait partie de la série, de même qu'en faisait partie la précédente, celle du 26 août. Ce n'est point là une simple coïncidence. J'en convins. Donc, provisoirement, imaginons, à titre d'hypothèse, que tous les 9 jours, le docteur absorbe une drogue susceptible de produire sur lui les effets passagers mais violents d'un toxique. Sa violence naturelle en est accrue. C'est à Prague, lors de son voyage, qu'il a connu l'usage de cette drogue. Aujourd'hui, il s'en approvisionne à Londres, chez un intermédiaire de nationalité tchèque. Tout cela fait corps, Watson. Mais le chien ! Mais le visage à la fenêtre ! Mais l'homme qui rampe dans le couloir ! Bon, bon, nous tenons un commencement. Pour le reste, je n'attends pas du nouveau avant mercredi. Je ne puis, entre-temps, que demeurer en contact avec l'ami Bennett et jouir des agréments de cette jolie ville. Au matin, Bennett vint, en grand secret, nous faire son dernier rapport. Ainsi qu'Holmes s'en doutait, il avait eu des heures pénibles. Sans l'accuser précisément de notre visite, le professeur lui avait parlé d'un ton très rude, comme sous le coup d'un grave ressentiment. Ce matin d'ailleurs, il avait repris son sang-froid et fait son cours aussi brillamment que de coutume, devant une salle comble. N'étaient ces étranges crises, conclut Bennett, il a plus d'énergie, plus de vitalité, plus de clarté dans l'esprit que je ne me rappelle d'en avoir jamais vu. N'importe, il n'est plus l'homme que nous connaissions, plus lui-même.
Je ne pense pas, répondit Holmes, que d'une semaine au moins, vous n'ayez aucun sujet de crainte. Je suis un homme occupé, et le docteur se doit à sa clientèle.
D'ici donc que nous nous retrouverons tous trois ici mardi prochain à pareille heure. Je me tromperais bien, si nous n'étions en mesure ce jour-là d'expliquer, si nous-mêmes de terminer nos ennuis. Quoi qu'il arrive dans l'intervalle, ayez soin de nous l'écrire.
Je ne revis pas Holmes les jours suivants, mais je reçus de lui, le lundi soir, un mot me demandant de le rencontrer le lendemain au départ du train. D'après ce qu'il me dit pendant le trajet, tout allait bien à Camford. La paix avait cessé de régner chez le professeur. Sa conduite avait été des plus normales. C'est ce que nous confirma Bennett quand, dans la soirée, il va nous voir au Checkers. Le professeur, ajouta-t-il, a reçu aujourd'hui même des nouvelles de son correspondant de Londres sous la forme d'une lettre et d'un petit paquet. L'une et l'autre portaient sous le timbre le signe indiquant que personne hors lui n'y devait toucher. C'est tout ce que j'ai à vous apprendre.
Je n'en demande certes pas plus, dit Holmes, qui s'était rembruni. Je crois, monsieur Bennett, que nous obtiendrons cette nuit un résultat. Si mes déductions sont justes, nous allons avoir une occasion de comprendre. Pour cela, il est indispensable que vous surveilliez attentivement le professeur. Ne vous laissez pas aller à dormir. Restez sur le qui-vive. Si vous entendez le professeur passer devant votre porte, ne l'arrêtez pas. Faufilez-vous derrière lui aussi discrètement que possible. Le docteur Watson et moi ne serons pas loin. À propos, où a-t-il la clé de la petite boîte ?
À sa chaîne de montre. Cette boîte-là pourrait bien contenir le secret que nous cherchons. Après tout, la serrure ne doit pas être à toute épreuve. Avez-vous sous la main un homme robuste ?
Il y a le cocher, MacPhail.
Où couche-t-il ?
Au-dessus de l'écurie.
Nous pourrions avoir besoin de lui.
Dès maintenant, plus rien à faire que de laisser venir les choses.
À bientôt.
Il y a des chances pour que nous nous revoyions avant demain matin.
Minuit allait sonner quand, dans le jardin du professeur, nous nous embusquâmes sous des buissons en face de l'entrée. La nuit était belle, mais froide. Nous n'avions pas trop de nos pardessus. Il soufflait une forte brise. Des nuages fuyaient dans le ciel, masquant de temps à autre la lune. Notre faction eût été assez lugubre si l'émotion et la curiosité n'en avaient relevé l'intérêt. Et si je n'avais eu de Holmes l'assurance que les événements dans lesquels nous étions engagés allaient enfin se résoudre.
Que le cycle des 9 jours ne soit pas une belle hypothèse, nous dit Holmes, et tantôt nous verrons le professeur dans le pire des états. Tout me le présage, le fait que les symptômes qu'il manifeste se révélèrent après son voyage à Prague, le fait qu'il est en correspondance avec un négociant de Londres originaire de Bohême et qui doit représenter quelqu'un de là-bas, le fait que ce matin même il en a reçu un paquet. S'il ne nous est pas possible de concevoir quelle drogue il prend et pourquoi il la prend, du moins nous ne saurions douter que par des voies plus ou moins directes, c'est de Prague qu'elle lui arrive. Il la prend suivant des instructions précises, de là les intervalles de 9 jours. Quant aux phénomènes qui en résultent, ils sont les plus étranges. Avez-vous remarqué les articulations des doigts chez le professeur ?
Je confessais que non.
Eh bien, elles sont devenues épaisses, calleuses, et d'une façon toute nouvelle pour moi. Regardez d'abord les mains, Watson, ensuite les poignets, les genoux, du pantalon, les chaussures. Des articulations d'un aspect très curieux, que peut seul expliquer le mode de progression observé par... Ici, Holmes s'arrêta et tout à coup se frappant le front.
« Ah, Watson, quel imbécile je fais !»«
Cela n'est pas croyable. » »«
Et c'est vrai, pourtant. » »«
Tout converge dans une même direction. » »« Comment n'ai-je pas su mieux voir l'enchaînement des faits ?»«
Ces articulations. » »«
Comment ne suis-je pas arrêté davantage à ces articulations ?»« Et le chien, et le lierre ?»« Décidément, il est temps que j'aille m'enterrer dans la petite ferme de mes rêves. »
Mais attention, Watson, voici le professeur, c'est une chance.
Il vient se donner à nous en spectacle. La porte du hall s'était lentement ouverte, sur le fond éclairé se détachait en noir la grande figure du professeur Presbury. Il était en robe de chambre. Sans perdre un pouce de sa taille, il s'inclinait en avant, les bras le long du corps, dans la même posture que le jour de notre visite.
« Venez, Watson, venez !» me cria tout bas Holmes.
Nous glissant le plus doucement possible à travers le buisson, nous gagnâmes un endroit d'où nous pouvions voir la façade latérale de la maison baignée par le clair de lune. Le professeur s'était plié sur lui-même, il se traînait, on eût dit qu'il rampait, au bas du lierre recouvrant le mur. Soudain, tandis que nous l'épions, il commença d'y grimper. Avec une agilité confondante, il sautait de branche en branche, le pied sûr, la main ferme, comme pour le seul plaisir de dépenser sa force et son but défini. Sur ce mur, où la clarté lunaire inscrivait un grand carré de clarté, les pans flottants de sa robe de chambre lui donnaient l'air d'une chauve-souris gigantesque. Bientôt, fatigué de son exercice, il se laissa redescendre, et reprenant son attitude rampante, il s'enfuit ainsi vers l'écurie. Le chien, dehors à cette nuit, mais toujours enchaîné, aboyait avec fureur. Son excitation ne fit que grandir quand il aperçut son maître. Il tirait sur sa chaîne. La rage de ne pouvoir s'élancer faisait courir partout son corps de longs frissons. Délibérément, le professeur s'en approcha, autant que le permettait la prudence et par tous les moyens imaginables se mit à le provoquer. Il ramassait des poignées de cailloux et les lui jetait à la tête ou bien il l'agaçait avec un bâton. Ou bien encore, il agitait ses mains, presque à portée de la gueule béante, s'escrimant à exaspérer une colère qui ne connaissait plus de bornes. Je ne sache pas que dans toutes nos aventures, j'eusse rien vu de plus déconcertant que la scène que nous donnait cet homme impassible, grave, ainsi blotti contre le mur, pour affoler, par un système de cruauté ingénieuse, un pauvre animal déjà fou. Et puis il ne fallut qu'une seconde et ce fut le drame. Non pas que la chaîne se rompit, mais le collier glissa hors du cou, ayant été fait pour l'encolure plus étroite d'un Terre-Neuve. Nous entendîmes le son de métal qu'il rendit dans sa chute, et l'homme et le chien roulèrent ensemble sur le sol, l'un poussant des grognements terribles, l'autre hurlant d'une étrange voix de fossé aiguisée par la terreur. Le professeur l'échappa belle. La bête l'avait saisi à la gorge, les crocs avaient mordu profondément dans la chair. Il avait perdu connaissance avant que nous eussions pu le délivrer, ce qui n'eût pas été commode si Bennett, par ses cris, n'avait rappelé le chien à la raison. Le cocher, encore à moitié endormi et tout ahuri, était au bruit sorti précipitamment de sa chambre. « Je ne suis pas surpris, » me dit-il. « J'avais observé le chien. Je savais qu'un jour ou l'autre, il se jetterait sur son maître. » Pendant qu'on emmenait l'animal, nous transportâmes le professeur dans la maison où Bennett, qui avait le diplôme de médecin, m'aida à panser les blessures de la gorge. Les dents n'avaient manqué que de bien peu, la carotide et l'hémorragie avaient été abondantes. Au bout d'une demi-heure, tout danger était conjuré. J'avais fait au blessé une injection de morphine. Il s'était endormi aussitôt. Alors, mais alors seulement, nous prîmes le temps de nous regarder et d'examiner la situation. « Peut-être y aurait-il lieu d'appeler un bon chirurgien, » dis-je. « Dieu nous en garde !» s'écria Bennett. « Le scandale n'a pour l'instant pas dépassé la maison. Nous l'y confinerons. » Une fois ces murs franchis, il ne s'arrêterait plus. Songez à la situation du professeur dans l'université, à sa réputation européenne, aux sentiments de sa fille. « Vous avez raison, » lui répondit Holmes. « Je crois possible de faire le secret sur tout ceci, qui plus est, d'en empêcher le renouvellement, aujourd'hui que nous avons les moyens d'agir. Veuillez, monsieur Bennett, prendre à la chaîne de montre la clé qui est suspendue. MacPhail veillera le malade. Au moindre incident, il nous préviendra. Voyons ce que le professeur cachait dans la mystérieuse petite boîte. Il n'y cachait que peu de choses, mais ce peu suffisait. Un flacon vide, un autre à demi plein, une seringue hypodermique, plusieurs lettres d'une écriture biscornue, certainement étrangère. Les cachets imprimés sur les enveloppes montraient que ces lettres étaient bien celles qui avaient jeté le trouble dans le train-train des fonctions du secrétaire. Sauf une, elle venait de Commercial Road. Elles étaient signées à Dorag. Elle se bornait à annoncer l'envoi d'un flacon ou à accuser réception d'une somme d'argent. La seule qui s'en distingua était d'une écriture moins gauche. Elle portait le timbre autrichien avec le cachet d'un bureau de Prague. « Voilà qui va nous renseigner, » fit Holmes en ouvrant l'enveloppe. « Très honoré, collègue, depuis la visite que vous avez daigné me faire, j'ai beaucoup réfléchi sur votre cas. » Bien que, dans la circonstance, le traitement qui a fait l'objet de notre conversation me semble se justifier par des raisons spéciales, je ne vous recommanderai pas moins une certaine circonspection. Les résultats que j'en ai obtenus démontrant qu'il ne va pas sans risque. Le sérum d'anthropoïde eût peut-être été préférable. Si, comme je vous l'expliquais, j'ai choisi celui du langour à tête noire, c'est que j'en avais sous la main un échantillon. Sans doute, le langour rampe et grimpe alors que l'anthropoïde marche dressé. Mais en tout cas, il est le singe qui se rapproche le plus de l'anthropoïde. Vous m'obligerez, en prenant toutes vos précautions pour que le procédé ne soit pas l'objet d'une révélation trop hâtive. J'ai un autre client en Angleterre. Dorak est mon agent auprès de lui comme auprès de vous. Je suis, avec une très haute considération, votre H. Lovenstein. Lovenstein. Ce nom me remit en mémoire un article de journal où il était question d'un obscur savant qui cherchait, par on ne savait quel procédé, le secret du rajeunissement, l'élixir de vie. Lovenstein, de Prague. Lovenstein, dont l'extraordinaire sérum, reconstituant de l'énergie humaine, était mis en interdit par les médecins parce que l'inventeur refusait d'en divulguer la provenance. J'exposais brièvement ce que j'en savais. Bennett avait pris sur un rayon de la bibliothèque un manuel de zoologie. Le langour, il utile, est le grand singe himalayen à figure noire. De tous les singes grimpeurs, c'est le plus important et le plus voisin de l'homme. Suite une description détaillée. Grâce à vous, monsieur Holmes, nous avons enfin remonté à la source du mal. La vraie source, répliqua Holmes, elle est sans contredit dans l'intempestive affaire d'amour, qui a pu faire croire au professeur que la réalisation de ses désirs dépendait uniquement d'un retour à la jeunesse. En cherchant à s'élever au-dessus de la nature, on s'expose à choir au-dessous d'elle. L'homme le plus éminent peut rétrograder vers la brute, sitôt qu'il a quitté le droit chemin de la destinée. Mon ami demeura un instant rêveur. Le flacon à la main, il regardait s'agiter entre les parois le clair liquide. Quand j'aurai écrit à ce Lovenstein que je le tiens pour un criminel, responsable des poisons qu'il met en circulation, nous n'aurons plus de son côté aucun désagrément. Mais ce qui s'est produit peut se reproduire. Un autre savant peut trouver une méthode meilleure. Il y a là un péril très réel pour l'humanité. Les êtres matériels, les sensuels, les désœuvrés, ne s'occuperaient plus désormais que de prolonger leur indigne existence. Et comme les êtres spirituels continueraient de n'écouter que l'appel d'en haut, la durée se trouverait acquise au moins qualifiée. Dans quel puits roulerait notre pauvre monde? Mais brusquement, le rêveur disparut, l'homme d'action bondit de son siège. Nous n'avons plus grand-chose à nous dire, monsieur Bennett. Les incidents que nous avons eus à étudier avaient tous un commun principe. Le chien, naturellement, s'avisa plus vite que nous du changement survenu chez son maître. Son flair l'avertit. Ce n'était pas au professeur qu'il en avait, mais au singe, et au singe qui le tourmentait. C'était le singe qui, par plaisir, grimpait au mur. S'il apparut à la fenêtre de Miss Presbury, ce fut un simple hasard. Allons, Watson, le train de Londres passe de bon matin. Nous n'avons plus avant de partir que juste le temps d'aller prendre une tasse de thé au Jaggers. Ainsi se termine L'homme qui rampe, par Arthur Conan Doyle.